le journal présenté par Justine Dinchet.
Bonjour, une icône de la cause palestinienne libérée de prison ce matin. Haed Tamimi, 17 ans, était emprisonné depuis son altercation avec des soldats israéliens mi-décembre. Cette scène filmée a fait d'elle une figure emblématique de la résistance palestinienne. Son portrait dans une minute. Au Cambodge, élection sans enjeu, si ce n'est celui de la participation. Le premier ministre, l'ancien Khmer Rouge, Hun Sen, devrait être réélu pour la sixième fois. Le principal parti d'opposition dissous l'an dernier appelle au boycott. Décryptage d'Eleonore Sok à Phnom Penh. Une nouvelle page de l'histoire au Zimbabwe, les premières élections depuis la chute de Robert Mugabe. Lisa Fabian a assisté hier au dernier meeting des principaux mouvements qui promettent tous les deux un renouveau. En France, vers une hausse du prix de l'eau pour financer la modernisation des réseaux d'eau potable. Cette mesure devrait être retenue par le gouvernement dans le cadre des assises de l'eau. Explication de Manuel Ruffez à la fin de ce journal. Elle aura passé plus de 7 mois en prison. Haed Tamimi, 17 ans, a été libérée ce matin d'après le porte-parole de la prison israélienne où elle était détenue. Cette jeune palestinienne aux longues boucles blondes avait été interpellée à la mi-décembre. Elle avait été reconnue coupable d'avoir frappé 2 soldats israéliens dans son village de Cisjordanie occupée et condamnée à 8 mois de prison. Le récit de cette affaire avec Marie Semelin.
« Allez-vous-en !» crie Haed Tamimi aux 2 soldats. Elle les bouscule, puis en gifle un. Nous sommes dans son village de Nabi Saleh, en Cisjordanie. Elle est avec sa cousine et sa mère. Et après la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux en décembre, elles sont arrêtées par l'armée israélienne. La famille Tamimi est connue pour son militantisme. La jeune fille, déjà avant cette arrestation, pour des altercations avec des soldats, dont des images ont fait le tour du monde. Mais sa condamnation par un tribunal militaire a fait d'elle une icône du combat contre l'occupation israélienne dans une société palestinienne en manque de figure populaire entre un président palestinien, Mahmoud Abbas, peu estimé, et le combat fratricide qui oppose Fatah et Hamas à Gaza et en Cisjordanie. Et depuis quelques jours, un portrait géant de Haed Tamimi est visible sur le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie. Pour Israël, c'est une agitatrice, voire une terroriste, même si certains politiques israéliens regrettent une lourde condamnation qui l'a, un peu plus, érigée en symbole. Les défenseurs des droits de l'homme mettent, eux, en avant la situation des mineurs palestiniens face à une justice israélienne intraitable en Cisjordanie, rendue par des tribunaux militaires. Ils mettent en parallèle les 8 mois de prison de la jeune fille avec le cas du soldat israélien Elor Azaria, condamné à 9 mois d'emprisonnement pour avoir abattu un attaquant palestinien blessé qui gisait au sol.
La jeune Haed Tamimi, qui serait désormais en route pour la Cisjordanie, Miko Peled, un activiste israélien et ami de la famille, s'est rendu au checkpoint où Haed Tamimi doit sortir du fourgon. Selon lui, le geste de l'adolescente est devenu un symbole.
C'est une gifle très importante. Je pense que c'est une gifle pas seulement pour cet officier, mais pour l'armée israélienne tout entière et la société israélienne. J'espère qu'un jour ils se réveilleront. Haed Tamimi, maintenant, elle est devenue un symbole. Elle ose gifler un soldat. Sa famille est harcelée. Ils ont vu l'armée débarquer des milliers de fois dans sa vie. Et finalement, cette jeune fille a fait cet acte très courageux de les pousser hors de sa maison, hors de son jardin, et de gifler ce soldat comme il le méritait. Et bien sûr, pour ce geste, elle devait être punie, car toute la société israélienne s'est sentie insultée.
Un propos recueilli ce matin par Marie Semelin. C'est une élection sans surprise qui se joue aujourd'hui au Cambodge. Le premier ministre Hun Sen devrait être réélu pour un 6e mandat. L'ancien Khmer Rouge a tout verrouillé pour se maintenir à la tête du gouvernement. Dissolution des partis qui pouvaient lui faire de l'ombre, arrestation de défenseurs des droits de l'homme ou encore fermeture de certains journaux. Pour protester, le principal parti d'opposition, le CNRP, appelle au boycott de cette élection. La correspondance d'Eleonore Sok à Phnom Penh.
Suite à la dissolution du CNRP l'année dernière, un peu moins de la moitié des électeurs se retrouvent sans voix au chapitre. Leur chef Kem Sokha est derrière les barreaux, accusé de préparer une révolution des couleurs. L'appel au boycott de Sam Rainsy, l'autre figure de l'opposition en exil en France, sera-t-il suivi ? Avec sa campagne doigt propre, référence à la trace d'encre laissée sur le doigt après le vote, il espère réveiller les consciences. Mais dans les zones rurales, beaucoup de Cambodgiens ont subi le matraquage du pouvoir. À travers les administrations locales, qui par exemple ont fait du porte-à-porte pour montrer quel bulletin choisir. La campagne s'est aussi jouée dans les médias. Plusieurs rumeurs et fake news ont circulé, comme par exemple un appel à aller voter, signé par Kem Sokha lui-même de sa prison. Dès vendredi soir, des sites web de médias critiques ont subitement montré page blanche, bloqués par les opérateurs d'Internet et de téléphone. Ces derniers ont appliqué une requête du gouvernement, je cite, « garder le silence dans une période de 24 heures avant le scrutin ». On a même surpris des chaînes de restauration détenues par des proches de Hun Sen dans un étonnant marketing électoral, une boisson offerte pour ceux qui auront voté. Si le gouvernement mise sur un taux de participation de 80%, pour nombre de Cambodgiens aujourd'hui, si la tâche d'encrier, le cœur n'y est pas.
Les premiers résultats de ces élections sont attendus dans la soirée. Les Maliens votent aussi aujourd'hui. Premier tour de l'élection présidentielle. Il y a 24 candidats. Le président sortant est en quête d'un second mandat. Ibeka a décidé de se représenter 5 ans après son arrivée au pouvoir. Son principal adversaire est l'ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé. Scrutin aujourd'hui sur fond de recrudescence des violences ethniques et islamistes ces derniers mois. Et puis enfin au Zimbabwe, dernier meeting de campagne avant le vote demain. Ce sont les premières élections sans Robert Mugabe, poussé vers la sortie par l'armée à l'automne dernier. Il a été remplacé par son ex-bras droit, Emmerson Mnangagwa, qui espère confirmer dans les urnes son emprise sur le pays. Lisa Fabian a assisté à ce dernier rassemblement politique hier à Harare.
Ses notes à la main, sa fameuse écharpe aux couleurs de la ZANU-PF autour du cou, Emmerson Mnangagwa a réitéré sa volonté d'ouvrir le Zimbabwe aux affaires. Cette promesse plaît à Dixon, qui a toujours voté pour le parti majoritaire.
Nous avons vu quelques changements depuis son accession au pouvoir. Les gens sont plus libres et nous avons renoué avec des pays que nous considérions autrefois comme des ennemis.
À quelques kilomètres de là, l'opposition zimbabwéenne tenait elle aussi son dernier meeting de campagne. Nelson Chamisa, le chef de file du MDC, a pris la parole devant une foule impressionnante et très enthousiaste.
Il est jeune, nous voulons du sang frais, une nouvelle vision, et cette fois nous défendrons notre vote.
Le MDC dénonce déjà le manque de transparence de la commission électorale zimbabwéenne. Wellington refuse de croire à la promesse d'élection libre et juste.
Mnangagwa est encore pire que Mugabe. Lui au moins était un autocrate assumé, alors que Mnangagwa prétend être docile, alors que c'est lui le pire de tous.
Selon un récent sondage, la ZANU-PF et le MDC sont au coude à coude dans les intentions de vote au Zimbabwe.
En France, la modernisation des réseaux d'eau devrait faire augmenter les factures des consommateurs. Le gouvernement a lancé un chantier d'un plan de relance des investissements pour des travaux sur les canalisations, tuyaux, usines d'assainissement tous vieillissants. Il rendra ses arbitrages fin août au terme de la première phase des assises de l'eau. Mais c'est sans doute donc les consommateurs qui supporteront cette hausse des investissements. Les explications de Manuel Ruffez.
Les estimations sont les suivantes. Il faudrait ajouter 1,5 milliard, voire 2 milliards d'euros par an aux 6 milliards de budget actuel pour faire face à l'ampleur du chantier de modernisation des réseaux d'eau. Où les trouver ? Eh bien, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a déjà prévenu l'essentiel du financement doit provenir de la facture d'eau. Les municipalités qui gèrent ça sont les premières concernées. André Flageolet, le responsable développement durable de l'Association des maires de France.
Le prix de l'eau a été pendant un certain temps une sorte de sésame que les maires mettaient en avant pour dire nous sommes les meilleurs gestionnaires. Moins l'eau était chère, plus on se targuait d'être bon gestionnaire, alors que c'était exactement l'inverse. Et donc tout ceci arrive parce qu'à un moment donné, on a fait le constat qu'un certain nombre d'élus, n'ayons pas peur des termes, n'ont pas fait leur boulot.
En France, le prix de l'eau est aujourd'hui inférieur à la moyenne européenne, mais avec de fortes disparités. Là où l'eau est la moins chère, elle devrait de fait augmenter. Mais les bons élèves s'inquiètent aussi d'un projet de solidarité avancé par le gouvernement qui les mettrait à contribution pour financer les moins bons.
Précision de Manuel Ruffez. Au moins 10 morts en Indonésie après un fort séisme hier soir sur l'île de Lombok. Séisme de magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter. Le bilan pourrait encore s'alourdir d'après les autorités. La météo de ce dimanche, nuages et pluies passagères sur la Bretagne et près de la Manche. Ailleurs, c'est du soleil. Les températures maximales comptaient 23 degrés à Rennes, 29 à Nice, 30 à Limoges, 33 à Strasbourg et 34 degrés à Grenoble.